Une exposition sur le franquisme monté avec l'Espagne, c'est ce que vous nous proposez de découvrir ce matin, Isabelle Duché.
Pour la première fois en Europe, une exposition sur le franquisme est proposée et c'est à Toulouse que ça se passe. En effet, le musée départemental de la résistance et de la déportation et l'université Toulouse-Jean Jaurès se sont associés pour organiser un cycle scientifique et mémoriel sur la dictature franquiste qui se déroulera jusqu'en 2026. Et ce cycle comprend cette exposition, une exposition intitulée « Anatomie du franquisme » qui est visible jusqu'au 22 septembre. Il faut un petit peu se presser, c'est pour ça que nous en parlons dès cette rentrée. Le commissaire général de l'exposition est l'invité de Radio Présence. Bonjour François Goudichaud.
Bonjour.
Vous êtes professeur d'histoire contemporaine du laboratoire Framespa de l'université Toulouse-Jean Jaurès et vous avez monté cette exposition avec une équipe d'historiens espagnols parmi les plus importants de ce domaine. Quels étaient, François Goudichaud, les attendus de cette exposition « Anatomie du franquisme » ?
Bien, il s'agissait d'abord de remplir un vide parce que le franquisme est un régime qui a duré une quarantaine d'années à nos portes et il est quasiment inconnu en France. Il n'est connu que par les résultats de sa propagande. Et c'est un problème, puisque la propagande du franquisme a tendu à diffuser l'idée d'un régime finalement paternel, paternaliste, de progrès économique, etc. Et c'est ce qu'on en a retenu en France, avec en plus la collaboration importante à partir des années 50-60 entre l'État français et le franquisme.
Donc vous vouliez un petit peu remettre les pendules à l'heure et puis aussi permettre aux personnes qui vont visiter cette exposition et puis j'imagine aussi les scolaires d'avoir une visibilité très claire sur cette période du franquisme.
Oui, parce que c'est un élément important de la culture européenne, de la mémoire européenne. Or, si vous allez au musée de la mémoire européenne à Bruxelles, il n'y a rien sur le franquisme.
Ah oui.
C'est un régime qui est beaucoup plus sanglant, beaucoup plus violent que le régime fasciste mussolinien. L'absence d'éléments dans la conscience européenne sur ce régime est un véritable problème. Aujourd'hui, à l'heure où les nostalgiques des régimes totalitaires qui ont été battus, sauf le franquisme, pendant la Seconde Guerre mondiale, ont de plus en plus d'influence et de pouvoir.
Mmh. Alors, nous allons partir de cette prise de pouvoir de Franco en juillet 1936. Quelle était, jusqu'à cette prise de pouvoir, jusqu'à ce coup d'État, la situation politique de l'Espagne ?
Eh bien, l'Espagne était une république depuis 1931. Et cette république connaissait des difficultés importantes liées au fait qu'on était dans la crise mondiale économique et puis une difficulté à asseoir une véritable alternance politique. Au mois de février 1936, les droites, et en particulier le grand parti de la droite catholique soutenu par l'Action catholique et par l'Église, perd les élections. Et c'est essentiellement pour une histoire de division entre ces droites qui faisaient le pari de la République et puis un parti monarchiste ultra qui décidait dès avant les élections d'aller contre le régime et de préparer un coup d'État. Cette défaite électorale fait que la grande masse des gens qui suivaient ce parti républicain catholique vont se décanter pour le parti monarchiste ultra, et on a pendant quelques mois un gouvernement de gauche qui est contesté de manière violente par des gens qui sont en train de préparer le coup d'État avec l'aide de Mussolini depuis plusieurs mois. Et ce coup d'État éclate en juillet 1936.
Et comment Franco a commencé sa conquête du pouvoir ?
Eh bien, il a eu de la chance, puisque le général qui était censé prendre la tête du coup d'État meurt dans un accident d'avion lors même du coup d'État. Lui avait quand même des avantages, il avait un réseau militaire important, il avait été directeur de l'académie militaire, il était le chef de l'armée du Maroc, c'est-à-dire l'armée coloniale qui était la plus efficace dans l'armée espagnole, et il a eu tout de suite le contact avec Hitler pour avoir immédiatement l'aide militaire d'Hitler, et il avait en quelque sorte le monopole de cette aide. Donc à l'intérieur de l'armée, il avait une position éminente. Ensuite, ce coup d'État et la réaction qu'il a suscité de rejet dans l'Espagne moderne, c'est-à-dire dans toutes les grandes villes où ce coup d'État a échoué, a provoqué une guerre civile. Et c'est là que s'est cristallisée autour de Franco une option politique qu'on a appelé le national-catholisme, catholicisme, une option politique ultra qui a mené la guerre et gagné la guerre à ce moment-là.
Alors, vous disiez au début de cette émission, François Godichaud, que ce qu'on savait du franquisme, c'était uniquement ce que la propagande franquiste avait bien voulu nous en livrer. De quelle manière les fondations de ce régime dictatorial sont-elles entretenues par le pouvoir ?
Alors, elles sont entretenues par le pouvoir jusque très tard, dans la mesure où sa légitimité, il l'attire de la victoire. Et il la proclame en permanence. Les années sont comptées en 1, en 2, en 3 de la victoire. Et c'est sur la base du projet de 1936 que se développent toutes les institutions franquistes. C'est-à-dire que c'est un projet de restauration de l'Espagne éternelle, qui n'a bien évidemment jamais existé, et de rédemption de l'Espagne, des péchés que des mauvais Espagnols ont pu commettre. Cette rédemption passe par une purge extrêmement profonde et par le fait d'arracher à la racine, hein, d'arracher les mauvaises herbes de l'Espagne. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire l'extermination de l'ennemi.
Oui, c'est ça.
Ça veut dire l'extermination de l'ennemi, des centaines de milliers de morts, 1 million de prisonniers en 1940, 1 million de conseils de guerre et une politique d'oppression et sur les individus et sur les familles qui vise à faire que la répression ne concerne pas seulement les corps, elle concerne aussi les esprits. Oui. C'est-à-dire qu'il faut faire rendre gorge et presque rendre l'âme à la République en chacun. Et il y a un processus de conversion dans les prisons, de conversion forcée, réalisé par les chanoines de prison qui sont en plus pas des gens à qui vous pouvez mentir. En général, c'est fait par les pères jésuites. Vous pouvez pas raconter des bobards à un jésuite sur la foi. Vous pouvez lui faire croire que vous avez la foi que vous l'avez pas. C'est un peu compliqué. Et donc il y a un véritable travail au corps à corps avec les prisonniers et avec leurs familles qui sont dans les villages qui dépendent de l'attitude du prisonnier. C'est-à-dire que si le prisonnier démontre une attitude
de la résistance,
etc., eh bien, sa famille va être punie au village. Et à l'inverse
elle
aussi, si sa famille n'est pas super disciplinée et n'est pas à genoux devant les vainqueurs du village, eh bien, le prisonnier pourra être battu, privé de lettres, etc.
Oui, donc c'est un système qui est verrouillé. Il y a pourtant eu des opposants, et c'est vrai que dans l'exposition Anatomie du franquisme, il y a quand même des tableaux qui montrent ces opposants. On pense à Picasso qui avait réalisé une gravure. Quelles ont été les réactions à ce type de prise de pouvoir ?
Alors, les réactions, elles ont été d'abord les armes à la main. C'est la guerre civile.
C'est la guerre civile.
C'est la guerre civile. Internationalement, le régime républicain s'est trouvé isolé. L'URSS, et pour des raisons, elle était un peu obligée dans la mesure où tous les communistes du monde s'attendaient à ce que l'URSS défende la République contre ce qui était perçu comme le fascisme, et c'était effectivement un fascisme espagnol, si bien qu'elle était obligée. De l'autre côté, l'Allemagne et l'Italie soutenaient complètement le franquisme. Et au-delà, après, en fait, après la guerre, les Alliés décident de laisser Franco au pouvoir parce qu'aucune solution libérale, majoritaire et stable n'apparaît à leurs yeux. Et ce dont ils ont peur, c'est d'une révolution, comme celle qui avait commencé à avoir lieu au printemps 36, en juillet 36, en réaction au coup d'État. Ils ont peur d'une révolution en 1945 en Espagne. Et donc, ils gardent Franco. Ils essayent, à un moment donné, de réinstaller un roi avec l'idée de faire un régime monarchique parlementaire avec deux partis, centre-gauche, centre-droit. Ça ne fonctionne pas. Franco reste. Il est resté jusqu'à sa mort en 1975. Le régime a duré jusqu'à la fin de 1977. Donc on a un régime qui est d'abord toléré, puis ensuite complètement intégré dans le bloc de l'Ouest. Et Franco se présente comme la citadelle de l'Occident, le défenseur,
comme un messie, hein.
Voilà, celui, le premier qui a vaincu le communisme. Et donc, dans le cadre de la guerre froide, il devient un espèce de héros où il se présente comme tel, et son régime doit sa survie à l'aide économique des États-Unis dès les années 50. En 1953, vous avez deux grandes dates importantes, la signature du Concordat avec le Vatican, et immédiatement après, dépendant de la première, la signature d'un accord avec les États-Unis. Et on a un programme économique qui est lancé après et qui permet de sortir de la catastrophe économique dans laquelle le franquisme avait plongé le pays et de commencer un développement qui ressemble au développement des Trente Glorieuses dans les pays d'Europe occidentale.
Mmh. Oui, vous avez parlé, François Gaudissot, de ces 250 000 exilés, 50 000 personnes qui ont été exécutées. Et puis puisque vous évoquez la situation économique, j'aimerais bien que vous nous en disiez quelques mots quand même pendant ces années 40.
La situation économique est dramatique. Il y a, les chercheurs ont mis au jour une situation telle qu'il y a eu une famine. Au début des années 40, une famine qui a duré... en un an, elle fait 200 000 morts. Il y a 200 000 Espagnols qui meurent de faim. Ça dure 10 ans, alors de manière moins violente pendant les 9 autres années, mais c'est extrêmement dur. On le voit aujourd'hui quand vous allez dans des villages où vous avez des gens qui ont... des personnes âgées qui ont sur eux les signes de la malformation liés à... Là, vous voyez des gens tout petits avec des gens marqués.
Oui.
Y a de la malnutrition infantile très forte. Donc la situation est catastrophique et c'est bien ce qui met en danger le régime à la fin des années 40, au début des années 50. Et c'est pour ça que les États-Unis aussi ont besoin... Enfin, ils ont besoin que ça n'éclate pas.
Mmh.
Ils ont besoin que... Parce qu'il y a une résistance, et j'ai oublié de le dire, il y a une résistance armée qu'on appelle... Enfin, comme la résistance en France contre l'occupant nazi, des gens qui sont qualifiés de terroristes, comme les nazis et l'État de Vichy qualifiaient les résistants, qui sont battus militairement à la fin des années 40, début des années 50, hein, écrasés, mais à partir du début des années 60, un mouvement social très important, avec une nouvelle génération dans les villes, liée à l'industrialisation, prend son essor et conteste de plus en plus le régime avec des grèves qui sont de plus en plus massives. Mmh. Mais tout ça, par exemple, c'est pas dans l'expo de cette année. C'est dans la deuxième partie de l'expo que nous sommes en train de monter.
C'est bien, vous nous mettez l'eau à la bouche. Je voulais vous demander quand même quelles étaient les différences avec le système concentrationnaire nazi.
Les différences sont très importantes. D'une part, parce qu'il n'y a à aucun moment de camp d'extermination en Espagne. Il y a 180 à peu près camps de concentration qui servent de camps de triage. En fait, il s'agit de trier les Espagnols pour savoir qui peut prendre commencer un chemin de rédemption et qui ne peut pas. Et à l'inverse du nazisme, ce sont les prisons qui servent, de système concentrationnaire. C'est-à-dire que le mouvement va des camps vers les prisons, alors que chez les nazis, dès avant la guerre, eh bien, on vide les prisons et on remplit les camps. Pourquoi vers les prisons? Parce que c'est dans les prisons, justement, qu'on peut faire ce travail sur les personnes,
de
sur les consciences,
de persuasion, de conversion, comme vous disiez.
Oui.
Oui. Il y a eu aussi le rôle de l'Église catholique, qui s'est expliqué aussi dans cette exposition. Et puis, on voit aussi des photos de ces prisons avec des femmes et des enfants, puisqu'il y avait aussi des enfants petits qui étaient emprisonnés.
Oui. Alors, l'Église catholique a donné son esprit à la guerre de Franco. Elle en a fait une croisade religieuse, véritablement, contre un ennemi extérieur, mais aussi une croisade intérieure, puisque une autre différence avec l'horreur nazie, c'est que ce sont les Espagnols qui sont visés. C'est pas, disons, les nazis prétendent éliminer une entité qui n'est pas conçue comme le peuple allemand. Mmh. Tandis que là, dans le franquisme, c'est le peuple espagnol qui est visé. Et donc, c'est une véritable croisade intérieure. Et l'Église accompagne et justifie cette répression et y participe tout du long. Sauf à considérer quand même que l'Église basque, en tout cas le bas clergé basque, est victime de cette répression franquiste parce que les curés basques se sont alignés sur les nationalistes basques.
Oui.
Ensuite, sur ce que vous me disiez sur...
Il va falloir couper, malheureusement. Donc, j'invite évidemment tous nos auditeurs à aller voir cette exposition. Et puis, en 2026, le deuxième temps de l'exposition qui mettra en lumière ce dont vous parliez, François Godichaud, la transformation de la société espagnole à partir des années 50. Donc, cette exposition est à voir au Musée de la Résistance et de la Déportation jusqu'au 22 septembre. Anatomie du franquisme. Merci, François Godichaud.